Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Quelles mesures de prise en charge et de prévention de la drépanocytose au Niger? Tel est le thème du forum d'aujourd'hui. La drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les mesures de prise en charge de la maladie et quelles en sont les mesures de prévention? Pour avoir des réponses à toutes ces questions et à bien d'autres, nous avons invité ce soir Dr Bedari Ali, le médecin chef du Centre national de référence de la drépanocytose. Docteur, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également avec nous Souraya Madouhima, elle est membre de l'ONG Bafouné. Souraya, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons avec nous toujours Abdulaziz Maman, également membre de l'ONG Bafouné. Abdulaziz, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous ce soir, Madame Hima Fatima, elle est présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger. Madame, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum sur la drépanocytose au Niger. Samedi 19 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. Et dans ce cadre que nous vous proposons ce forum, la drépanocytose est une maladie génétique du sang. D'après le site web Journée mondiale, la lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'Organisation mondiale pour la santé pour la zone Afrique et occupe le quatrième rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Au Niger, d'après un diagnostic du Centre national de référence de la drépanocytose élaboré en 2009, l'on dénombre 1500 nouveaux cas chaque année. Aussi, selon des chiffres du Système national d'information sanitaire, SNIS, issu d'enquêtes parcellaires en 2010, le taux de la prévalence des traits drépanocytaires se situe entre 18 et 22%. Et d'après toujours le SNIS, quelques 2 695 095 Nigériens seraient porteurs de traits drépanocytaires, parmi lesquels 673 773 sont drépanocytaires de traits SS, la forme la plus compliquée de la maladie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais vous demander à chacun de nous présenter donc vos structures respectives. Je commence avec vous, Dr Bedari Ali, médecin chef du Centre national de référence de la drépanocytose.
Merci, monsieur. Eh bien, le CNRD, c'est quoi? C'est le Centre national de référence de la drépanocytose. Un centre qui a été créé par l'État grâce à l'aide de l'Association nigérienne de lutte contre la drépanocytose, qui a fait un plaidoyer auprès de la DCI, la Direction de la coopération internationale Monaco, avec l'aide de l'ONG de la princesse de Monaco, l'AMAD mondiale. Et c'est avec leur coopération que le centre a été créé.
Depuis quand?
Ça a été créé depuis 2008, mais nous avons commencé à fonctionner à partir de janvier 2010.
Alors, quelles sont les principales missions assignées à ces centres?
Les principales missions, la première, c'est surtout la prise en charge des drépanocytaires. La deuxième, c'est faire la recherche sur la maladie. Et la troisième, c'est faire ce que nous sommes en train de venir faire aujourd'hui, c'est faire la communication sur cette maladie-là pour que chacun sache qu'est-ce qu'il va falloir faire.
Merci beaucoup. Nous passons à vous, Souraya Amadou, pour nous parler de l'ONG Bafouné également.
Brièvement, l'ONG Bafouné a été créée par l'arrêté 2007. Donc nous sommes tous des drépanocytaires, nous nous sommes concertés. C'était dans le but vraiment de créer un cadre d'échange parce que étant drépanocytaires, nous seuls savons pourquoi ou bien nous seuls savons comment nous la vivons, cette maladie. Donc nous nous sommes concertés et nous avons eu l'idée de créer une ONG qui se nomme ONG Bafouné. Donc c'est créé par tous les par des drépanocytaires, uniquement pour les drépanocytaires, depuis 2007.
Peut-être un complément, Abdulaziz, vous êtes toujours tous membres, peut-être un complément par rapport aux missions, surtout assignées à l'ONG Bafouné, dont vous êtes membre également, tout comme Souraya Amadou.
Oui, effectivement, l'ONG Bafouné, c'est surtout lutter, sensibiliser sur la drépanocytose, parce que jusqu'à jour, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est.
D'accord. Nous venons à vous, Madame Hima Fatima, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose ALDN. Présentez-nous l'ALDN, qu'est-ce que c'est, ça a été créé depuis quand et pour quelle mission?
Elle a été créée en 2008. Et c'est une association qui regroupe les parents et les enfants drépanocytaires. Pourquoi cette association a été créée? Effectivement, c'est, vous savez que la maladie, c'est une maladie qui est très pénible, qui est à supporter. Et quand nous allons en consultation au niveau de l'hôpital national de Niamey, donc chaque parent raconte les misères qu'il a vécues la veille avec son enfant malade. Et c'est en ce temps-là que le professeur et Abou, qui était le médecin-chef au niveau de la pédiatrie B, il nous a dit, mais pourquoi vous ne vous regroupez pas en association, Et on s'est dit, c'est une bonne idée. Parce que lui, il sait, il vit, il voit comment les parents vivent cette maladie, comment les enfants vivent, ils supportent cette maladie. Et franchement, et ce professeur-là, il a été d'un apport pour nous. Oui, et donc il nous a conseillé et nous sommes regroupés en association. Donc cette association, elle a pour objectif de réduire le coût de la maladie chez les malades. Parce que la drépanocytose est une maladie très coûteuse. Elle a pour mission aussi d'alléger la prise en charge, surtout la prise en charge chez les malades. Et puis les jeunes malades aussi, il ne faut pas qu'ils soient pénalisés à cause de leur maladie et que ce soit les jeunes et tout malade drépanocytaire, qu'ils aient une issue, un débouché pour son travail. Parce qu'il est malade, qu'il va être condamné et puis ne pas participer au développement de son pays.
Nous allons, juste une question avant de revenir peut-être un peu en détail par la suite. Et quand vous dites que l'objectif c'est pour réduire les coûts de la prise en charge et autres, est-ce que cela signifie que vous avez un fonds disponible pour mettre à disposition des parents, d'enfants ou bien vous faites du plaidoyer pour chercher des fonds? Comment ça se fait? Vous faites pour réduire ces coûts?
Depuis la création de l'association, nous avons trouvé un système, un système d'une sorte d'assurance entre griffes. C'est pas une assurance comme
oui, bien sûr,
donc c'est-à-dire que nous avons des cartes de membres, et ces cartes de membres et ce sont aussi des cartes d'adhésion. Le malade ou le parent de malade, il achète la carte à 2000 francs. Et donc nous, avec cet argent qu'on collecte, on va subventionner un centre de santé de la place. Et tous les malades qui passent dans ce centre de santé ont une réduction. Donc à l'époque, c'était l'hôpital national du Niamey. Et ça a fonctionné de la création de l'association jusqu'en 2017. À partir de 2017, donc, on a rompu ce contrat parce que donc, la structure elle-même, elle rencontre des difficultés. On avait trouvé aussi un financement au niveau de la princesse Caroline de Monaco qui nous a donné un montant pour ouvrir une pharmacie. Et au niveau de cette pharmacie, c'est une pharmacie qui est subventionnée.
D'accord, merci. Mais déjà, docteur Baydari Ali, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose, dites-nous la drépanocytose, qu'est-ce que c'est?
La drépanocytose, en termes médicaux, c'est la maladie génétique héréditaire à transmission autosomique récessive. Mais ça, c'est assez dire. Pour que les gens comprennent, on dit voilà, juste que c'est une maladie que l'on hérite des deux parents et qui se transmet donc à partir de la naissance. Et donc, cette maladie qui est génétique et héréditaire, il faut que, pour que la personne soit malade, il faut que ses deux parents soient porteurs de la tare. Les deux parents sont porteurs, c'est ce que nous appelons très souvent des patients AS. Et donc, quand il y a eu le mariage entre deux personnes AS, eh bien, c'est en ce moment-là qu'on peut avoir dans ce couple un enfant qui va hériter d'un S de la mère et puis de l'autre S du père. Et en ce moment, cet enfant va être drépanocytaire SS. Et c'est là vraiment toute la difficulté que nous trouvons au niveau de cette maladie, parce que toutes les personnes qui sont AS ne présentent jamais aucun signe de cette maladie-là. C'est simplement quand ils vont se marier, quand ils vont avoir le premier enfant qui sera drépanocytaire, que en ce moment-là, on va se dire, ah, peut-être que, c'est ça que nous voyons tous les jours, le père va dire non, c'est la mère, c'est du côté de la mère va dire non, c'est du côté du père. Mais nous, nous savons qu'une fois qu'un enfant naît SS, ça veut dire que des deux côtés, chacun a eu à donner son nom LS.
Quand on parle de la drépanocytose, on parle d'une, il y a une question de globules rouges, d'oxygène. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée?
Oui, en fait, on dit que la drépanocytose, c'est une mutation de l'hémoglobine. L'hémoglobine A normale. À ce niveau-là, c'est une chaîne à 144 acides aminés, la chaîne bêta, et une des chaînes qui est à 121. Mais c'est surtout sur la chaîne bêta où la mutation a lieu à un site bien précis, le sixième codon. C'est une chaîne, pour que vous les gens voient très bien, c'est comme si c'est un chapelet qui est numéroté de 1 à 121. Maintenant, au niveau du numéro 6, c'est là qu'il y a eu la mutation. C'est là où la perle n'est pas la même chose que toutes les autres perles. Et c'est la seule différence entre le drépanocytaire et le non-drépanocytaire. C'est parce qu'à ce niveau précis, un acide aminé, donc l'acide glutamique, a été remplacé par la valine. Et c'est ce qui fait que la protéine, c'est-à-dire l'hémoglobine que porte le globule rouge, va avoir des perturbations, elle ne va pas pouvoir faire son travail comme ça se doit. Puisque le travail de du globule rouge, c'est à travers cette hémoglobine qui va prendre l'oxygène dans les poumons et le ramener un peu dans tout l'organisme humain. Et donc, s'il y a cette mutation-là, l'hémoglobine qui est là, une fois qu'il n'y a pas assez d'oxygène, c'est elle-même qui ne va pas prendre beaucoup l'oxygène déjà. Et elle va elle-même faire en sorte que le globule rouge va être déformé en fossile. C'est ça qu'on appelle les drépanoses. Et c'est ce que nous appelons, pour que les gens comprennent bien, la forme fossile qui va prendre ou la forme banane que le globule rouge va prendre. Et nous savons que dans les vaisseaux, quand le globule rouge prend cette forme banane-là, elle ne pourra pas bien circuler. Et si elle ne circule pas, elle va empêcher les autres qui ont l'oxygène de passer. Et eux aussi, au fur et à mesure, vont vont prendre cette forme-là et vont bloquer le passage du sang. Et nous savons que tant qu'il y a le sang qui est bloqué pour que ça aille au niveau des autres centres, eh bien, les parties qui ne sont pas irriguées là, ce sont ces parties-là qui vont avoir mal et ce sont ces parties qui vont alerter le patient pour dire que il y a quelque chose, ça ne va pas. Nous ne sommes pas en train d'être irrigués et c'est ce qui fait que très souvent, quand la personne a ces crises-là, il va avoir des douleurs. Et les douleurs, c'est pour dire que la partie qui n'est pas irriguée est en train d'avoir mal parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Ouais. Et il va falloir rapidement déboucher. C'est ce qui fait que quand la personne a mal, très souvent, ce sont les enfants, ils vont commencer à crier. Ils ne disent pas là où ils ont mal.
Là où ça fait mal, mais
ils ont mal quand même. Et dans ce moment-là, il va falloir aller rapidement dans un centre de santé pour prouver que effectivement c'est la drépanocytose qui est en cause. Et si c'est la drépanocytose qui est en cause et qu'on a fait le diagnostic, c'est très simple. On nous envoie ces patients-là au niveau du CNRDE. Nous prenons vraiment en charge et nous faisons leur suivi.
Alors, qui est drépanocytaire? C'est lui qui est porteur des traits SS et SC, c'est ça?
Drépanocytaire, ce n'est pas un trait. C'est celui qui a les deux allèles qui sont SS. C'est pourquoi on l'appelle SS. Maintenant, celui qui a le trait drépanocytaire, c'est que lui, il a de l'hémoglobine anormale et de l'hémoglobine anormale S. Ceux qui ont SC, eux, ce sont les mêmes malades que les SS parce que eux aussi, ils ont hérité le S d'un des parents et le C d'un autre parent. Et donc, ils sont SC.
Alors, quelles sont les causes principales de cette maladie?
Il faut que les parents eux-mêmes, comme on dit, conduisent la maladie. Il faut qu'eux soient déjà porteuses de cette tare-là. Quand les parents sont porteurs de la tare, effectivement, ils peuvent donner ça. C'est selon les lois mendéliennes où on dit un quart, un demi. Ceci, c'est parce que quand la personne est AS et AS, quand on fait le croisement, il se pourrait que on ait un enfant qui est AA, donc qui est normal, il n'a aucune tare. Il y a deux enfants qui auront AS et un qui sera SS. Mais ça, ce sont les lois de Mendel, c'est les lois de la probabilité.
Ça peut ne pas être comme ça.
Ça veut dire que dans un couple, on dit qu'un quart des enfants a SS. Oui, mais ça veut dire que chaque enfant qui naît a la possibilité, la probabilité de tirer ce gène SS-là. Ce qui fait que nous avons vu des familles qui ont 4, 5, 6 enfants tous sont SS.
SS, d'accord. Alors, est-ce que les mariages intrafamiliaux sont-ils une des causes de la maladie?
Oui,
certains
nous avons
disent
fait...
que c'est le fait de se marier entre cousins, cousines, entre, voilà, favorise cela.
Exactement, puisque c'est ce que nous appelons la consanguinité des parents. Effectivement, puisque avant, je vais dire, l'électrophorèse de l'hémoglobine n'étant pas fait dans toutes les familles, les gens vont se marier juste parce que, bon, il y a une affinité qui est là ou parce que les parents ont décidé qu'un tel se marie avec un tel. Mais il se trouve qu'en ce moment-là, l'électrophorèse n'étant pas faite, ça veut dire que les deux qui vont se marier, les deux jeunes qui vont se marier, chacun a peut-être, puisque c'est la même famille, chacun a peut-être reçu le gène d'un de ses parents. Et donc, c'est quand ils vont se marier, ils vont avoir leur enfant qui est soit SS ou SC ou S bêta-tal, qu'on va se rendre compte qu'effectivement, puisqu'ils ont eu un enfant qui est drépanocytaire, ça veut dire qu'eux, qui sont en amont, ont donc la tare en elle. Bien que, comme je viens de le dire, eux n'ont aucune crise. Ils ne présentent aucun symptôme de cette maladie-là. C'est pourquoi, un peu au début, quand j'avais parlé de maladie récessive, une maladie récessive, c'est-à-dire que c'est une maladie qui ne pourra pas s'exprimer tant qu'elle n'est pas en double.
En double.
Si elle est en double en ce moment, elle va s'exprimer. Mais quand la personne est AS, c'est le A là qui va primer sur le S et c'est le A là qui va diriger. Le A étant beaucoup plus important que le S ne peut pas s'exprimer.
Merci beaucoup, docteur, éclaircissements. Nous allons passer au témoignage avec, donc, nous avons Souraya Amadou. Et voilà, juste un petit témoignage. Vous êtes donc membre de l'ONG Bafouné, qui est une association créée pour et par des porteurs, donc des drépanocytaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour votre cas, comment vous vivez cette maladie et, voilà.
Merci bien. Moi, j'ai la forme AS, comme l'a dit docteur.
Pas de symptômes.
Voilà, ceux qui ont la forme AS, vraiment, ils n'ont aucune crise. Bon, je ne vais pas dire aucune crise, mais vraiment, on ne présente aucun symptôme. Rarement, les petites douleurs, ça, les petits maux de tête, mais franchement, la personne...
Qui sont à la base.
Oui, moi, c'est de mon enfance qu'on a su que j'ai la forme AS, mais ça ne m'a rien empêché.
Alors, socialement, comment vous vivez ça?
Je vis tranquillement, je n'ai aucun problème. Quand j'ai les petites douleurs, je les gère du moins.
Est-ce que vous êtes mariée?
Oui, j'ai 3 enfants et Dieu merci, ils n'ont aucun ne présente le signe-là.
Excusez-moi de vous poser ces questions un peu indiscrètes. Voilà. Est-ce que vous avez fait le test avant de vous marier ou bien vous vous êtes mariée et puis par chance, voilà, vous êtes tombée sur peut-être quelqu'un qui ne porte pas?
Non, le test, bien sûr, avant le mariage. Parce que je me suis mariée en 2012 et j'étais dans l'association depuis 2007. Et on a pris les conseils des...
Mais lui, il n'avait pas.
Il n'a aucun signe de drépanocytose. Donc, raison pour laquelle d'ailleurs, le mariage...
D'accord. Rapidement, docteur, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je veux ajouter quelque chose parce que ce qui est important, nous avons dit que pour que l'enfant soit drépanocytaire, il faut que les deux parents
soient porteurs.
A-S-A-S. Si elle est déjà AS. Ce qui est important, et c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui, c'est ça le message. Le message, c'est que toutes les personnes qui sont porteuses de la tare, s'ils doivent se marier, ils doivent se marier. C'est vraiment devoir, doivent se marier avec ceux qui n'ont pas cette tare-là. Une fois qu'ils se marient avec ceux qui n'ont pas la tare, il n'y a aucun problème. Nous n'aurons pas d'enfants drépanocytaires SS parce qu'elle ne va donner que A ou S. Et le mari qui est là, qui est AA, va donner A. Il va donner que A. Elle, il va donner A ou S. Donc, l'enfant,
quel que soit, on aura
l'enfant, au pire, ne sera que AS. Donc, il sera porteur juste là.
Alors, les personnes qui ne portent pas la tare, c'est seulement ceux qui sont AA?
Oui.
Ou bien il y a une autre... C'est seulement ceux qui sont AA?
C'est ceux qui sont AA.
D'accord.
Ceux qui sont AA.
Nous sommes 5 de la famille. Nous sommes 5. J'ai 2 grandes sœurs, 2 petits frères. Nous sommes 5. Et Dieu merci, je suis la seule qui a le signe AS. Donc, les autres n'en ont pas. Je me demande chaque fois comment ça s'est passé. Mais c'est avec les questionnaires. Donc, j'ai appris que c'est le côté du papa. J'ai eu cette maladie.
OK. Alors, avec vous, Abdelaziz Mohamed.
Les
Et votre cas?
Moi, je suis le malade dont on parle ici.
Donc, vous êtes SS?
Voilà, moi je suis SS. Oui. Et Dieu merci aussi, parce que les parents ont eu la chance de le savoir,
très tôt. Mmh.
Et si je me présente, tant que je ne vous dis pas que je le suis,
bien
c'est
sûr,
difficile.
Bien sûr, c'est pas.
C'est une chance vraiment, je remercie les parents qui sont sacrifiés pour ça.
Mmh.
Et concernant vraiment les crises, c'est. Comme le docteur le dit, des fois on ne sait même pas ce qu'on dira pour que les gens puissent comprendre
la douleur, où ça se situe.
Voilà, parce que c'est une douleur atroce, que bon, peut-être là où ça fait plus mal, mais sinon c'est tout le corps, toutes les articulations. Donc à partir de là, on peut dire, si toutefois on a la chance d'avoir des encadreurs, des médecins à côté, donc c'est plus facile, mais malheureusement, c'est juste dans les capitales ou dans les grands centres qu'on peut trouver les centres.
Nous allons parler de la prise en charge. Vous parlez de ceci, de cela. On va en parler un peu en détail. Oh. Mais est-ce que socialement, vous êtes marié ou...
Oui, je suis marié, père de 3 enfants aussi.
Et quel est leur statut?
AS. Parce que...
Tous
le... Oui, tous. Comme le...
Vous êtes...
Je suis déjà... Le malade, donc oui. Il me faut nécessairement
quelqu'un
un partenaire qui n'en a pas.
Et c'est ce que vous avez fait.
Voilà. Et comme elle le dit, nous sommes 5 aussi, mais les 2 grands, dont je suis le deuxième, le premier il est SS, moi le deuxième je suis SS, et 3-4 ils n'ont rien,
ils sont
AA, et la dernière est la AS. Donc le partage,
Ouais. Alors, pour terminer cette partie, hein, juste peut-être un mot, Madame la Présidente de l'association, par la maman, par rapport aux complications, comment vous vivez la situation de voir ses enfants souffrir?
Effectivement, c'est très pénible. C'est très pénible de vivre avec un seul enfant drépanocytaire. Nous, au niveau de l'association, toute famille qui a un seul enfant drépanocytaire, nous la mettons comme un cas social. Parce que c'est une maladie pénible, c'est une maladie qui coûte très cher. Parce que, en moyenne, quand un malade fait une crise, le minimum, chaque jour, c'est-à-dire ce qu'on peut dépenser, ça va entre 30 à 50 000 par jour.
Par jour.
Sinon, au-delà. En cas
Est-ce
de complication.
Est-ce qu'il y a un comprimé, il y a un médicament précis qu'on donne qui permet de soulager ou bien, c'est quoi, qui coûte,
non,
c'est frais?
C'est-à-dire, c'est entre les examens, entre les radios et les produits pharmaceutiques. Par jour, ça va aller, c'est entre 20 à 50 000 francs par jour. Il y a même des hospitalisations qui coûtent le séjour où ça va à 200 000 jusqu'à même 1 million. Ça dépend du temps de séjour du malade ou bien la complication qu'il a développée. Peut-être docteur Bédard va... Parce qu'il y a plein de complications qui sortent. Chaque organe peut présenter une complication. Donc nous, en tant que parents, ce qu'on supporte, c'est surtout le coût de la maladie. Ce coût-là, il est insupportable. Prenons, vous savez que le SMIC au niveau ici au Niger...
C'est 30 000.
Ça, donc c'est, 47, pour c'est un quoi? Parent qui... touche 30 000 et à qui on demande de défalquer 50 000 francs par jour pendant 7 jours. Et là, c'est le séjour minimum. Ça peut aller un mois, sinon au-delà. Donc, c'est pour vous dire que nous, en tant que parents, on supporte très difficilement cette maladie.
Alors, puisque nous sommes déjà dans la partie prise en charge des complications de la maladie et des patients, dites-nous, vous avez évoqué tout à l'heure que votre association donc est là, c'est pour justement essayer d'amoindrir les coûts de ces prises en charge. Quelles sont vos autres sources de revenus en dehors des cotisations des membres?
Donc, les autres sources de revenus, donc, on est toujours avec la coopération de Monaco qui nous aide.
C'est la seule?
C'est la seule pour le moment. Elle est le parrain de la drépanocytose dans tout le monde. Dans le monde entier, parce qu'elle supporte 6 associations africaines. La coopération internationale de Monaco, avec l'aide aussi de la fondation de la princesse Caroline de Monaco. Donc voilà, ce sont les seuls partenaires qui nous aident. Donc nous, par exemple, l'an passé, nous avons, nous en tant qu'association, comme on connaît le coût de la maladie, nous avons fait un plaidoyer et nous avons acheté des médicaments qu'on a déposés au niveau du centre
national,
du centre, pour que surtout en cas de la de l'hivernage, comme c'est la, c'est le pic de du paludisme.
Okay.
Donc, vous savez, les drépanocytaires supportent mal le paludisme. Ça aggrave leur situation. Donc, nous avons fait un plaidoyer, nous avons acheté des médicaments qu'on a déposés.
Donc, pendant cette période, ces produits vont être...
donnés gratuitement aux malades qui sont admis. Qui est admis en urgence au niveau du CNRD. Le premier jour de traitement, il est défalqué dans ces produits-là. C'est le deuxième jour que le parent va prendre le relais. Donc voilà un peu, à peu près les actes qu'on est en train de faire. Mais ça, ça n'empêche pas que nous supportons aussi des cas sociaux en tant qu'association. On a des cas sociaux, mais on n'a pas les moyens.
Bien sûr.
Parfois, c'est notre fonds de fonctionnement même. On n'achète même pas le fonctionnement. C'est ce fonds-là qu'on met pour les cas sociaux qui se présentent à nous parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que je vous ai dit, c'est une
maladie. Les cas sociaux, vous parlez des parents de...
des malades de drépanocytaires.
Qui n'ont pas pratiquement qui n'ont pas les moyens.
Qui n'ont pas les moyens pour prendre en charge le malade qui est en crise. Et là, c'est vraiment très pénible de voir. Les médecins même qui font la consultation, parfois, ils enlèvent l'argent de leur propre poche pour pouvoir payer des examens.
Tellement ils sont témoins de la souffrance et un peu de l'indigénat.
Un parent qui vient, il amène l'enfant à 40 degrés de fièvre avec douleur et cris et tout. Et on lui donne une ordonnance, il vous dit, moi-même, les 200 francs de taxi,
pour venir, je les ai empruntés.
Vous me donnez une ordonnance pour aller acheter. Avec quoi il va acheter? Et le médecin ne va pas laisser l'enfant qui est là en train de crier, de se tordre en douleur. Il faut réagir.
Alors,
il faut le calmer.
Merci.
Vous voyez la situation.
Nous allons justement aller voir avec le docteur Beida Riali. Comment se fait la prise en charge et avec quoi?
Avant qu'on aille au niveau de comment se fait la prise en charge, je veux qu'on parle un peu de ces différentes complications. Parce que pour nous, il faut que tout le monde comprenne que la drépanocytose, si la personne se présente avec une fièvre, on le considère comme déjà une complication de la maladie. Tout signe, c'est un drépanocytaire et une complication de la maladie. Maintenant, quelles sont les complications les plus fréquentes qu'on va rencontrer chez le drépanocytaire? Les premières complications, c'est ce que nous appelons le syndrome PMA. Il s'agit de tuméfactions qui vont apparaître au niveau du dos des pieds et des mains à partir de 6 mois déjà de naissance de l'enfant. Ça commence par là. Et vous allez voir que les parents, quand ils vont se rendre compte, ils vont dire que non, c'est peut-être le grand frère. C'est le grand frère qui a poussé le petit. C'est pourquoi il a eu ces deuxièmes-là. Mais ils vont se rendre compte que 2 jours, 3 jours après, ça va partir. Mais ça va revenir. Ça, ce sont les premiers signes de la maladie. Mais sachez que les complications les plus fréquentes, elles sont de l'ordre de 3 types.
Lesquelles?
Le premier type, c'est l'anémie. L'anémie, c'est-à-dire le manque de sang. Nous savons que la drépanocytose elle-même s'appelle anémie drépanocytaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sang par rapport aux personnes normales. Maintenant, sur ce fond de anémie chronique, il peut avoir une réduction encore de cette maladie, de ce taux d'hémoglobine-là. Et dans ce cas, on parle d'anémie aiguë. Et cette anémie aiguë, il va falloir la prendre rapidement en urgence. En tout cas, dans les 24 heures qui suivent, il faut qu'on trouve une poche de sang pour transfuser la personne. Et donc, ça, là, c'est l'une des premières.
Donc, parmi les traitements et qui sont apportés, ceux qui ont cette forme d'anémie, il y a la transfusion sanguine qui est appliquée.
Maintenant, la deuxième complication, ce sont toutes les complications infectieuses. Quand on dit infectieuse, c'est toutes les maladies, aussi bien parasitaires, dont le paludisme qui est là, et aussi les infections le plus souvent pulmonaires. Et les infections urinaires. Les infections pulmonaires, pourquoi? Parce que les infections pulmonaires nous donnent ce que nous appelons le syndrome thoracique aigu. Il s'agit de l'atteinte du poumon, qui peut être une ischémie ou une infection, ou les deux à la fois.
Et ça empêche de respirer?
Ça donne pratiquement à la radio un poumon, un lobe qui est blanc ou tout un poumon qui est blanc. Ça veut dire que tout ce poumon-là ne reçoit pas bien d'oxygène. Et nous savons que l'organisme elle-même travaille à partir de l'oxygène, c'est le carburant.
Bien sûr.
Donc si le poumon dans lequel on va chercher, on va chercher le poumon, lui-même n'en reçoit pas,
ouais.
Comment l'organisme va se présenter? Et donc, voilà la raison pour laquelle le syndrome thoracique aigu est une urgence diagnostique et thérapeutique. Urgence diagnostique, ça veut dire qu'il faut aller rapidement trouver c'est quoi.
Et c'est là où il faut faire les radiographies et autres.
Et urgence thérapeutique, il faut rapidement prendre en charge. Ouais. Et donc, ça, c'est une des complications qui est tueuse.
Elle est fréquente?
Elle est assez fréquente. Elle est assez fréquente.
Quelle est la réponse que vous apportez après le diagnostic et tout?
Une fois que le diagnostic est fait, eh bien, il va falloir faire trois choses. Il va falloir d'abord transfuser la personne. Il va falloir lui mettre des antibiotiques. Et là, les antibiotiques, c'est une triple antibiothérapie. Et il va falloir oxygéner la personne. Donc, vous voyez, c'est ça l'urgence.
Et ça coûte, ça peut coûter autour de...
Le prix, j'ai vraiment pas trop le prix, parce que pour nous, il faut sauver la personne.
Ouais, ouais.
Pour nous, on ne compte pas sur le prix. Ouais, on cherche à sauver une vie humaine.
Ouais.
Je vous ai dit les trois premières. La première, je vous ai dit que c'est l'anémie. La deuxième, c'est l'infection.
Ouais.
Et la troisième, ce sont les thromboses.
Ouais.
Et ces thromboses-là, il faut faire très attention. Nous avons parlé un peu de thrombose au début quand on a dit que les globules rouges qui vont s'agglutiner vont empêcher le passage du sang.
Ouais.
Ceci peut se faire au niveau du cerveau. Et quand ça se fait au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous appelons les AVC, accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux, qu'est-ce que ça donne? Ça fait que la personne, le patient, va perdre l'usage
des membres.
Et si jamais, mais malheureusement, c'est ce qui se présente, ça a été prouvé que dans les 3 ans qui suivent, si cette personne n'est pas bien prise en charge, il va encore refaire un autre AVC. Qui peut affecter maintenant la partie normale. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas attention, c'est ces drépanocères-là, et nous en avons vu certains qui ont fait un double AVC, ils ont fait un AVC à gauche, ils ont fait un AVC à droite, et ils ont cet enfant,
parce que
ces enfants
ont
perdu,
les
4 membres, et même la parole.
Une question avant de donner la parole à madame. Bon, allez-y, on va vous écouter.
Oui, c'est pour répondre à votre dernière question. Est-ce que l'État...
Oui.
Quel est l'effort que l'État fait?
Fournit dans, oui.
Effectivement, mais au temps du président Tanja, effectivement, il a doté la pédiatrie de l'hôpital national de Niamey en produits pour les drépanocytaires, et ça pendant un an. Pendant un an, on a acheté des produits pharmaceutiques qu'on a stockés. Et avec quand le malade présente une ordonnance, tant qu'il est drépanocytaire, il est servi gratuitement.
Peut-être que cela est rentré dans le cadre de la gratuité des soins pour les enfants.
Voilà, je pense que la gratuité a commencé à partir de là.
Mais maintenant, ce n'est plus d'actualité?
Si.
La gratuité, elle est d'actualité, mais pour les moins de 0 à 5 ans, jusqu'à 5 ans. Mais pour les drépanocytaires, c'était tout âge confondu, autant de Tanja. Et entre-temps, nous, en tant qu'association, nous avons mené un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée sortante, donc pour attirer l'attention des décideurs sur la souffrance que vivent les malades et leurs parents. Et donc, pour que vraiment qu'il y ait quelque chose qui change dans ce domaine-là.
Est-ce qu'il y avait une attente particulière qui a été formulée?
Oui, l'attente, c'était pour que si l'État peut prendre en charge ou bien si l'État peut participer à réduire le coût de cette maladie chez les parents. C'est-à-dire une sorte d'assurance ou bien si on peut acheter des médicaments qu'on peut déposer au niveau du CNRD pour réduire le coût de cette maladie pour les malades. Donc, jusqu'à présent, on est en pourparlers, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu de concret.
Je voudrais juste poser une question avec à docteur Baydar Ali. Peut-on guérir définitivement et complètement de la drépanocytose?
C'est là toute la complexité de cette maladie. Guérir complètement, c'est trop dire. On peut stabiliser la personne avec le suivi régulier. Puisque nous avons dit les différentes complications, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un bon suivi. Il faut, pour tous ceux qui sont drépanocères et où il y a le vaccin, parce que c'est très important, la vaccination de ces enfants pour les prévenir contre les maladies infectieuses. Tant qu'il y a un vaccin qui est là, on prescrit les vaccins pour que la personne prévienne. Parce qu'on vous dit,
les vaccins
mieux pour...
qui sont déjà prescrits habituellement sûr. Pour tous les enfants.
En dehors, non, en dehors de la vaccination PEV, l'État prend en charge pour tous les enfants de moins de 1 an.
Il y a des, maintenant, y a des vaccins d'autres propres. Vaccins,
il y a des vaccins propres qui sont là que tout dépensateur devrait faire pour éviter la survenue de ces infections chez ces patients-là.
Y compris les adultes ou les enfants?
Les adultes, tout le monde. Tous les dépensateurs doivent être vaccinés.
D'accord, mais...
et puis revaccinés parce qu'il y a des rappels que la personne doit faire.
Merci. Nous abordons la dernière partie de l'émission, donc par rapport justement aux mesures préventives. Et qu'en est-il de la prévention de façon générale?
De façon générale, sur la prévention de la survenue de la maladie. Nous venons de dire que c'est une maladie génétique héréditaire transmise par les deux parents. Ok, il faut que les deux parents soient conducteurs. Donc, la prévention se trouve à ce niveau exactement. Mais c'est la façon la plus simple de dire. Mais c'est aussi la façon la plus difficile de faire. Parce que nous disons que oui, il suffit d'éviter le mariage entre AS et AS. Et on n'a pas de dépensateurs SS. Mais malheureusement, qui sont ceux-là qui vont se marier? Actuellement, nous sommes peut-être dans les vacances qui vont commencer, tout le monde veut se marier.
Ouais.
Qui sont ces personnes-là qui sont parties avant de se marier, voir un médecin pour dire, moi je veux savoir si je suis conducteur de cette maladie ou pas. Et les gens se marient comme ça. Et donc, la prévention, c'est à ce niveau-là. C'est que chacun fasse son test d'électrophorèse pour savoir si il est conducteur de la maladie ou il n'a pas du tout cette maladie-là. Et en ce moment, il peut se marier. Parce que quand vous savez que vous n'avez pas la maladie ou quand vous savez que vous avez au moins la tare dans votre sang, il va falloir, pour éviter d'avoir le malade, que vous preniez un partenaire qui n'en a pas du tout. Et en ce moment-là, nous allons commencer à régresser la fréquence. Parce qu'il faut le dire, hein. Peut-être que je ne vous ai pas parlé un peu.
Merci, docteur, nous n'avons pas beaucoup de temps, désolé.
Cela
nous amène justement à écouter ensemble le témoignage donc, d'un porteur de la tare et qui est musulman. Heureusement, il y en a encore, il y a des musulmans, en tout cas certains qui font ça. Et lui également, il a fait ce test parce que dans sa famille, il y a déjà des grands frères des aînés qui ont eu des difficultés avec ça et lui il a jusqu'à 3 mariages qui ont été avortés à cause de cela. Nous allons l'écouter, il s'appelle Adnan.
Le test, moi personnellement je n'ai pas voulu le faire parce que je ne savais pas, on n'était même pas informé de l'existence de la maladie dans notre famille. Il a fallu qu'après un de mes grands frères, lui aussi qui était AS, qui s'est marié avec une fille qui est aussi AS, donc ils ont eu 2 enfants SS de manière successive. C'est le traitement et puis le coût des médicaments et tout ça. Après, on a vérifié, on a su que c'est la drépanocytose. Donc moi, au niveau de la famille...
En tant que petit frère.
Donc au niveau de la famille, on s'est concerté et puis on m'a dit, bon, prochainement, tout celui qui va se marier, vraiment de diagnostiquer pour éviter de tomber dans le problème que vit mon grand frère. Et donc voilà, et étant donné que je suis le dernier qui ne s'est pas marié, je suis le cadet de ma famille. Et donc c'est moi, je suis le seul qui ai fait le test avant le mariage. Et donc moi, la drépanocytose m'a empêché de faire 3 mariages, comme par coïncidence.
3
mariages. Donc là, le premier, c'était à cause de ça. La deuxième aussi, la même chose. La troisième, elle, on a commis l'erreur de ne pas faire le test. C'est la veille de la dot que ma maman a dit bon d'aller faire le test pour confirmer, malgré qu'elle a dit qu'il pouvait être sûr. Et on est parti. Moi, j'ai repris le test avec elle pour encore confirmer. Et il s'est fait qu'elle aussi, elle est AS. Et c'était la veille de la dot. Et moi, étant donné que dans ma famille, il y a déjà 2 cas, puisque à part mon grand frère, ma grande sœur aussi a épousé quelqu'un qui est AS. Et elle a eu aussi un enfant SS. Donc, j'ai vu comment elle le prenait en charge, les risques, les problèmes. Moi, je me suis dit, bon, vraiment, je vais me sacrifier. Je vais accepter d'éviter de prendre une fille AS.
Pour vous, quel que soit, vous ne vous engagerez jamais avant d'avoir fait ce test.
Oui, ça c'est clair, je n'épouserai jamais une fille AS parce que si j'épouse une fille AS, je me dis que tous les sacrifices que j'ai faits avec les 3 dernières aura été vain, n'aura pas servi à quelque chose. Donc je pense que je vais aller jusqu'au bout.
Voilà donc ce témoignage par rapport à cette question, celui-là, en tout cas 3 bien sûr. C'est quelqu'un qui a, jusqu'à aujourd'hui, actuellement, il est célibataire. Il attend de trouver donc, celle qui soit pas porteur de la tare. Docteur, vous voulez réagir?
Oui,
après, on fera réagir tout le monde pour finir. Nous sommes déjà hors délai.
Je voulais réagir un tout petit peu parce que ce cas-là est vraiment à saluer, il faut le dire. C'est pas facile que la personne sache qu'elle est AS, qu'elle demande, parce que c'est ce que nous demandons toujours, que toute personne qui a fait son électrophorèse, qui se trouve qu'il est AS,
qui connaît déjà son
statut, qui demande à ce que son partenaire aussi. Et ça, il ne faut pas qu'il attende à amener la dot. Parce que très souvent, nous avons vu, quand c'est la dot est déjà amenée, là, ça devient un peu plus compliqué. C'est avant d'arriver à la dot, là, qu'il devait demander à la fille de faire l'électrophorèse avant qu'on amène la dot. Comme ça, si on n'a pas amené la dot, bon, il est reculé tout doucement, on ne sait pas. Donc vraiment, pour nous, ce cas-là est très important. Il faut que chacun... Parce que lui, et je le salue pour ça, parce qu'il a vu comment ses grands frères et ses sœurs sont en train de souffrir parce qu'ils ont un enfant de réponse dans la famille. Et c'est ce que lui, il veut éviter.
Et il fait des sacrifices.
Et je l'encourage dans ce sens, et je pense que tous les gens qui sont sur ce plateau vont l'encourager dans ce sens, parce que c'est l'idéal qu'il est en train de choisir là. Nous sommes en train de l'aider, et nous allons l'aider pour ça. Il faut qu'il sache qu'au Niger, il y a les 24% qui sont porteurs de la tare. Ça veut dire qu'il y a encore, c'est une personne sur 5. Il y a encore, il a fait les deux, il reste encore les trois autres qui sont là. Il va avoir cette personne qui est AA, Inch'Allah, avec laquelle il va se marier. Je vous assure, un seul enfant drépanocytaire, un couple, même celui qui a 1 million par mois ne peut pas le prendre en charge. Ça, c'est le témoignage
c'est
d'un
le docteur
médecin.
Qui parle, bien sûr.
C'est le témoignage d'un médecin qui vous dit ça.
Merci, docteur. Nous allons faire réagir les autres. Nous commençons avec vous, Soraya. Amadou, par rapport à ces témoignages et un peu qu'est-ce que vous avez envie de dire et d'ajouter.
Tout à l'heure, je disais que c'est touchant parce que vraiment, moi, ça m'a touché. On dirait que je le connais. J'imagine déjà ce qu'il vit. Ouais. Trois mariages avortés, c'est vraiment difficile. C'est pas facile de supporter, mais... Nous le saluons, sincèrement, nous le saluons. Et on a besoin de ce genre de personnes de notre ONG qui sont déterminées et qui vraiment... C'est d'ailleurs l'une de notre priorité, la sensibilisation. Lui, ça veut dire que lui, là, partout où il va s'asseoir, il va sensibiliser les gens.
Bien sûr.
Parce qu'il est déterminé.
Il est l'exemple.
Voilà,
il n'a pas besoin
vraiment,
de citer quelqu'un.
Vraiment, on a besoin de lui, de notre ONG. Nous le saluons sincèrement. Nous le saluons.
Oui, Madame Fatima.
Donc lui, il a compris la sensibilisation. Nous faisons cette sensibilisation. Il est AS. Il faut qu'il trouve une âme qui est AA. Ça, c'est certain.
Ouais.
Mais il faut pas, c'est pas parce que la personne est drépanocytaire qu'elle va avoir un problème pour se marier. Nous sensibilisons tous les jeunes de faire ce qu'il est en train de faire.
Ablaziz.
Et nous lui souhaitons d'avoir la bonne âme, sœur.
Merci.
Nous, on nous appelle les tests. Dès que vous voulez vous marier, on commence d'abord par demander, vous avez fait l'électrophorèse, vous savez votre statut. Donc, au finish, on nous appelle tests, parce qu'on ne peut même pas commencer une relation sans... Autant savoir si réellement ça...
C'est un petit nom que les gens...
Voilà. Parce que nous, c'est comme ça.
Parce qu'ils savent que vous faites d'abord le test.
Voilà. Un message au gouvernement.
Oui.
On n'a pas la prise en charge. Avant, il y avait la prise en charge du gouvernement quand vous partez au centre ou à l'hôpital. On vous prend à hauteur de 80%. Aujourd'hui, ça n'existe pas.
Ça a disparu.
Et vu les coûts de cette maladie, au moins qu'ils reconnaissent qu'on a vraiment besoin de ça.
Qu'une partie, en tout cas, des charges
soit considérée.
Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir bien été des nôtres durant ces 45 minutes et même plus. Voilà. Pour parler de quelles mesures de prise en charge et de prévention de la drépanocytose au Niger, nous avons vu que c'est une maladie, en tout cas héréditaire, dont la prise en charge est très compliquée et coûteuse, qui fait souffrir certaines familles. Les uns et les autres en ont parlé par rapport à la prise en charge, par rapport aux efforts qui sont fournis par l'État, par le partenaire qui est donc le Monaco, donc la princesse du Monaco qui a été citée. Et nous avons vu le volet prévention qui est surtout l'aspect sur lequel une attention particulière doit être mise, non seulement par les uns et les autres, mais aussi par les acteurs qui sont impliqués. La prévention consistant à se faire tester, à faire un test prénuptial, donc à se faire tester, connaître si on n'est pas porteur de la tare et si sa partenaire ou son partenaire n'est pas porteur avant de s'engager dans une relation conjugale. Merci à tous, je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali, la réalisation vidéo Al-Mustapha Ayouba. Nous étions en compagnie de Madame Fatima Hima, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger, Dr Baydari Ali, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose, Souraya Amadou, membre de l'ONG Bafouné, et Abdelaziz Maman, également membre de l'ONG Bafouné. Bonsoir.